m'arrive d'être angoissé par une espèce de vide, vous savez. Je pense que c'est une sensation assez normale d'un certain âge. On s'aperçoit que de jour en jour, le chemin qui reste est plus court, n'est-ce pas? Et que le vide autour de soi devient de jour en jour plus grand.
Vous connaissez sûrement Dino Buzzati, vous connaissez ses écrits, Le désert des Tartares, son roman le plus célèbre, adapté au cinéma avec une palanquée de vedettes, Le cas, sa nouvelle la plus populaire. L'auteur italien est devenu une star en France dans les années 60. On le lit encore aujourd'hui. Un petit livre sort cette semaine en France. Il s'intitule La dernière enquête de Dino Buzzati. Il m'a fait découvrir l'homme de lettres sous un autre jour. Saviez-vous que Dino Buzzati a été toute sa vie journaliste? Saviez-vous qu'il avait été une des grandes plumes du quotidien italien, le Corriere della Sera? Saviez-vous qu'il avait chroniqué les faits divers, couvert la guerre et signé d'étonnantes critiques d'art pour ce journal où il a passé toute sa vie? Un autre regard sur Dino Buzzati.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Et pour commencer, j'adresse une bise de bonne année à tous les fidèles de l'Instant M. Que 2022 vous rende heureux. Anne-Cécile Perrin, notre réalisatrice, Redouane Tella, notre rédac-chef, les amis Eva Rock et Xavier Delaporte qui ont délicieusement assuré l'émission et l'édito du matin en mon absence. Bref, notre petite boutique radiophonique vous adresse ses meilleurs voeux. Et à vous aussi, Alexis Sadatko, bonjour.
Bonjour Sonia, merci, bonne année.
Voilà. Merci et bravo pour ce petit livre, La dernière enquête de Dino Buzzati, ce roman qui sort aux éditions de Noël. On va en parler ensemble dans un instant. Mais d'abord, j'offre comme chaque vendredi un cadeau aux auditeurs. Le cadeau du vendredi matin, c'est l'un des coups de cœur de la fin de l'année 2021, Le droit du sol, la BD géniale d'Étienne Davodeau. Étienne Davodeau qui traverse la France à pied, crayon à la main. C'est paru chez Futuropolis. Mon adresse, toujours la même. L'instant M à radiofrance.com. Alors la question, cet archive que vous allez entendre date de 1966. Comment s'appelle cette voix de France Inter qui avait 20 ans en 1966?
Le fait d'être animateur sur France Inter et d'avoir 20 ans apporte, je pense, aux auditeurs des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'un animateur de 40 ans a sa personnalité, a son, non pas son public, mais sa personnalité. Moi j'ai 20 ans... Il est normal que les jeunes m'écoutent et s'amusent avec moi.
Voilà, alors comment s'appelle-t-il? Vous devez retrouver son nom, je vous donne un indice, il a été maître d'école. Bonne chance.
Aller envers une vieillesse qui est toujours très mortifiant et très...
Une diminution,
c'est une chose horrible, la vieillesse. Non au moins, il faudrait avoir un esprit... Un grand esprit pour affronter la vieillesse et pouvoir la vaincre aussi. Peut-être la bonté. La bonté, c'est l'unique arme pour ça, peut-être.
Oui. La voix de Dino Buzzati, qui est mort il y a pile 50 ans, Alexis Sadatko, vous avez signé ce petit livre crépusculaire et très onirique, dont on va, comment dire, essayer de dire peu de choses ce matin, pour le garder intact pour vos futurs lecteurs. Car vous avez, tenté d'imaginer les derniers mois de Dino Buzzati, la toute fin d'une vie très riche et très remplie. Dino Buzzati, et c'est ce qui m'intéresse ce matin, étant très très jeune au Corriere della Sera, ce grand quotidien italien. Et au fond, vous nous faites redécouvrir la vie d'une plume qui a toujours imbriqué le journalisme et l'écriture fictionnelle.
Oui, tout à fait. Il n'y avait pas de frontière pour Buzzati entre le journalisme et la littérature. Mmh. Enfin, en tout cas, lui, il les a fait sauter, ces frontières. Et il a appris à écrire au Corriere della Sera. Avant, lui, c'était le jeune Buzzati. Sa passion, c'était l'alpinisme. Et la seule chose qui comptait, c'était ascensionner les plus hauts sommets des Dolomites. Et puis, un beau jour, je pense que c'est son père qui était un petit peu inquiet pour lui, je crois, qui lui a mis un peu le pied à l'étrier, au Corriere. Ouais. Et il est rentré très, 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 très jeune. C'est-à-dire que les premières années, il n'écrivait pas, Bizzati. Il servait le café aux autres journalistes. Et surtout, il allait sur les faits divers. Les faits divers assez crapuleux, les choses, les crimes, etc., dans les cités défavorisées de Milan. Et puis, il rapportait les faits que d'autres écrivaient à sa place. Oui. Et ça a été extrêmement long.
Je vous propose d'écouter une très jolie archive qu'Anne-Cécile Perrin a retrouvée. C'est Indro Montale qui a été vraiment un immense chroniqueur du Corriere della Sera qui raconte les débuts de Buzzati au journal.
Buzzati a appris à écrire dans les journaux. Et d'abord, il écrivait très très mal. Et c'est dans le journalisme, c'est surtout dans la chronique des faits divers qu'il a formé sa vocation d'écrivain. Buzzati a toujours aimé la peinture, d'ailleurs. Même lorsqu'il écrivait un article, avant tout, il le dessinait. Il dessinait les faits. Puis il écrivait. Il écrivait d'une écriture qui était déjà une peinture. Mais il n'a jamais faussé un fait. Jamais.
Et les mots que vous reprenez vous-même, Alexis Saladko, c'est-à-dire, voilà un journaliste chroniqueur qui vient sur les faits, qui vient sur les lieux du crime, et qui dessine le carnet à la main.
Bah oui, il dessine parce qu'en fait, Buzzati ne s'est jamais servi, comme ses confrères, d'un appareil photo. Et chaque fois qu'il allait sur une scène de crime ou quelque chose comme ça, il faisait un dessin, il faisait un croquis, pour lui, qui était beaucoup plus fidèle qu'une photo. Il disait d'ailleurs que le dessin, c'était son métier, et que la littérature, c'était son hobby. Mais en effet, il procédait de cette façon-là. Et donc, pour en revenir à ses débuts, il a postulé pour une place de chroniqueur au Corriere della Sera. Il avait une vingtaine d'années. Et le jour où il avait rendez-vous à Milan pour cet entretien d'embauche, il devait ascensionner un sommet avec son copain Bartoli. Il n'a pas pu le faire. Bartoli est parti seul et s'est tué. Et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué.
Comme une sorte de signe du destin.
Exactement. C'est quelque chose qu'il a poursuivi toute sa vie. Et de toute façon, le thème de la mort, le thème de la fin est omniprésent.
Et le désert des Tartares, qui est donc ce roman si célèbre, qui a été adapté au cinéma avec Jacques Perrin, Trintignant, Noiret, etc. Et c'est donc ce fort...
Bastiani.
Au milieu de
confins,
nulle part,
aux confins
etc.
Des déserts, oui.
Vous dites, au fond, c'est comme une sorte de théâtre de marionnettes dans lequel il rejoue la rédaction du Corriere della Sera.
Exactement. Dans ses entretiens à Yves Panafieux, à la fin de sa vie, il a avoué qu'en fait, il s'était totalement inspiré de la rédaction du Corriere della Sera sous le fascisme, parce que c'était l'organe de presse de Mussolini, le Corriere, et il s'est inspiré de cette salle de rédaction sous le fascisme pour inventer, créer les personnages de militaires du Fort Bastiani. C'est-à-dire que les soldats que l'on voit, qui attendent l'invasion des Tartares, sont en réalité les Montanelli,
les journalistes, les Montale, toutes les plumes en fait du Corriere.
Toutes les plumes prestigieuses du Corriere, exactement.
Incroyable.
Avec cette hiérarchie qui existait aussi au Corriere,
bien sûr.
Qui est une hiérarchie militaire.
Et qui est la hiérarchie propre à toutes les salles de rédaction.
Et qui est la hiérarchie propre à toutes les salles de rédaction. Et en fait, le désert des Tartares, c'est le Corriere, en effet. C'est une transposition littéraire du Corriere della Sera. Et il faut rappeler que ce livre est paru en 1940, quand même au moment presque de l'entrée en guerre de l'Italie, l'entrée officielle, quand les journalistes écrivains du Corriere della Sera sont devenus des écrivains soldats.
C'est ça.
Soumis au code pénal militaire. Ça ne s'est pas passé dans beaucoup de pays, cela. Et donc, ils ont été en uniforme vert de gris, tous ces journalistes qui travaillaient ensemble au Corriere, et ils sont partis, les uns sur le front de l'Est, comme Malaparte, Buzzati sur les cuirassés, les sous-marins de la marine royale italienne.
Et ils ont continué. Comme vous chroniquez, justement, Dino Buzzati à la fin de sa vie, il reconnaît la teneur extrêmement problématique au fond des articles qu'il a signés pendant toutes ces années-là. Il sait très bien qu'il a dû épouser une rhétorique fasciste.
Oui, absolument.
Il en est parfaitement conscient, il est totalement lucide à la fin de sa vie.
Il est tout à fait lucide à la fin de sa vie, lui il a fait son service militaire au moment du fascisme. D'ailleurs il s'est trouvé très heureux à ce moment-là, il avait une faiblesse de caractère je crois, qui faisait qu'il avait besoin d'un cadre rigide pour pouvoir s'épanouir. Et l'armée, il s'y est trouvé bien. Et puis ensuite, il s'est aperçu, comme beaucoup, qu'il s'était totalement fourvoyé. Et puis à la Libération, on lui a quand même confié l'article sur la Libération de Milan. Ce qui prouve qu'on ne l'en voulait pas trop.
Et c'est une forme de rédemption journalistique ?
Je pense que oui. Je pense qu'il en avait besoin. Mais ceci dit, c'est les fantômes de Mussolini, les fantômes de cette période l'ont poursuivi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça que dans le roman, il y a un personnage féminin qui est une jeune femme qui, elle, fait partie de... qui a 30 ans de moins que lui et qui a participé à ce qu'on appelle mai 68 en Italie, puisque c'était dans les deux pays, en France et en Italie, qui a eu des révoltes estudiantines et qui lui porte la contradiction à ce moment, quand il va faire cette dernière enquête dans ce petit village d'Italie. Cette personne qui s'appelle Fausta lui porte la contradiction et le ramène à ces années-là.
C'est ça. Ces années-là qui sont, comment dire, scandaleusement accrochées en bandoulière à l'image. Là, lui, vous lui faites dire des phrases très fortes, Alexis Saladko, à votre personnage. Vous dites, on m'avait rangé dans la catégorie écrivain scandaleusement non engagé. C'est le tribut à payer quand on refuse toutes les étiquettes. Le destin de l'iconoclaste n'est-il pas de finir émietté ?
Oui, mais il avait quelque chose. Il était lâche, il le reconnaît. Il était peureux, il le reconnaît. C'est vraiment l'anti-Malaparte. Malaparte, lui, c'est le héros de la Grande Guerre. C'était une tête brûlée. Mais lui, c'était tout le contraire. C'est le anti-héros, d'ailleurs, qu'il décrit dans le désert des Tartares. C'est Drogo. Mais on peut lui reconnaître plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il a eu le courage de l'imagination. Lui, il a pris un sentier qui est celui du roman imaginatif, des nouvelles imaginatives, la fantaisie, etc., pour dire des choses souvent très profondes et très très belles. Et la deuxième chose, c'est que quand il a dû faire face à la maladie à la fin de sa vie, là, il s'est vraiment transformé en héros. Il a eu une attitude face à la maladie magnifique parce que, premièrement, il s'est trouvé comme soulagé par cette attente. C'est la même chose, les Tartares étaient en lui. Comme il dit, j'avais les Tartares.
Les Tartares, on va faire venir les Tartares.
Lieutenant Drogo, affecté à la forteresse, je viens prendre mon service.
Nous sommes tous fiers ici d'appartenir à ce que l'empereur lui-même a appelé la sentinelle la plus aristocratique de la couronne. Bastiano n'est certainement fait pour personne. Je pense que Dieu lui-même ne pourrait y vivre.
Voilà Le désert des Tartares, ce roman célèbre devenu un film de cinéma non moins célèbre. Et au fond, vous chroniquez Buzzati au moment où il comprend qu'il va mourir d'un cancer du pancréas. Il le comprend avant même que le médecin délivre son diagnostic.
Parce que son père est mort de la même maladie, il le sait. Il sait qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Et lui qui était un énorme angoissé, et on revient à ses paroles du début de l'émission, et bien tout d'un coup, il a éprouvé une espèce de soulagement. Il a dit, ben voilà, j'ai plus à attendre. Par contre, je veux terminer ma vie la plume à la main. C'est-à-dire, je veux continuer à faire mon travail jusqu'au bout, et en particulier mon travail de journaliste. Et il a eu sa carte de journaliste jusqu'à fin 1971. Il est mort le 28 janvier 1972. Donc jusqu'à son dernier souffle, il a été fidèle à ce journal.
Et alors, vous glissez dans la peau de votre personnage
dans la tête
écrivain, et dans la tête, c'est ça, en imaginant un dernier fait divers, voilà, quelque chose qui est à la limite entre le réel et le fantastique. On envoie Buzzati dans un village où il s'est passé quelque chose de très étonnant. Les habitants d'un immeuble sont là, pétrifiés comme les habitants de Pompéi, soufflés par le vent du volcan. Et il y a là quelque chose de résolument italien. Ça m'a fait penser aussi au roman de Niccolò Ammanniti qui a été adapté en série. Ça a donné Il Miracolo, qu'on a pu voir sur Arte. C'est-à-dire le fait divers italien, comme chez Fellini, qui est toujours à la limite entre la réalité et le sacré.
Absolument. Fellini, d'ailleurs, avec lequel il a travaillé sur un film qui ne s'est jamais fait, qui s'appelle Le voyage de Gemma Storna. Mm-hmm. Et en effet, cette enquête le ramène alors à la fois à cette réalité italienne, et surtout l'Italie des années 70, c'est la misère, qui est très bien d'ailleurs décrite par tous ces merveilleux films de la comédie italienne. Et surtout, ce roman est à la fois une enquête policière et un roman policier, et une biographie romancée. J'ai essayé de mêler les deux. Et au bout du voyage, finalement, Buzzati tombe en face de lui-même, en face de sa propre mort.
C'est ça.
Et il en fait quelque chose, à mon avis, d'absolument pas crépusculaire, triste ou désespéré. Mais au contraire, c'est un message d'espoir qui nous envoie.
C'est ça, une forme de libération. Et c'est un retour permanent aussi sur la plume, l'homme. oui. Le citoyen et le journaliste qu'il a été. On l'écoute parler, justement, à la fin de sa vie, du critique d'art très particulier qu'a été Dino Buzzati dans le Corriere della Sera.
Le très bon journalisme, c'est la même chose, selon moi, de la très bonne littérature. Je ne suis pas critique. Moi, je suis un écrivain qui écrit d'art. Et je crois d'être en condition de pouvoir être utile au public plus qu'un critique, vous savez. Parce que les critiques, en général, ont un langage devant lequel le public reste interdit.
Critique d'art. Il est parti du fait divers et il est arrivé à la critique d'art.
Oui, en passant par le journalisme sportif.
Oui.
Puisqu'il a quand même été un très grand journaliste sportif. Il a couvert le Giro à l'époque de Fausto Coppi. Il était passionné d'alpinisme, on l'a dit, de vélo, etc., de football aussi. Mm-hmm. Et puis, il a fini critique d'art, c'est-à-dire bon, ce qu'on peut faire de mieux en même temps. Et comme lui dit Montanelli, mais enfin, voilà, c'est le dernier barreau avant le ciel, tu vois. Ça.
C'est ça. Être dans les coulisses de la Scala, raconter la représentation de la veille, la faire vivre.
C'est ça.
Pour les lecteurs du lendemain matin au Corriere della Sera. Le Corriere della Sera, il faut le situer un petit peu dans le paysage médiatique italien, dans l'histoire de la presse italienne, Alexis Sadatko.
Oui, c'est un grand quotidien de droite, donc. Mais alors, il a eu une très longue histoire. Il a été créé en 1876. Il a traversé toutes les crises, en particulier la guerre. On lui reprochait beaucoup d'être l'organe de propagande de Mussolini. Pendant toute période, Buzzati n'a pas démissionné. C'est ça qui l'obsédait, d'ailleurs. Et puis ensuite, il a été proche plutôt de la démocratie chrétienne, des choses comme ça, mais en même temps...
Il a accueilli des grandes plumes de gauche, comme Pasolini.
Bien sûr. Mm-hmm. Pasolini, d'ailleurs, la mort de Pasolini est totalement liée, sans doute, aux articles qu'il a écrits dans le Corriere, où il dénonçait l'amalgame, la collusion entre la démocratie chrétienne et la mafia. Mm-hmm. Et c'est sans doute ce qui lui a valu cette fin terrible. Et en effet, donc il côtoyait des gens de gauche, des gens de droite. Enfin, c'est un journal très ouvert. Mais il y a eu plusieurs rédacteurs en chef qui se sont succédés. Et les derniers ont accordé une place beaucoup plus importante à la culture et à l'art. Plus on avançait, plus c'était ça qui était important. Mais lui, Buzzati, il écrivait dans la prestigieuse troisième page qui s'appelait l'Elzeviro. Mmh. Et il y avait trois colonnes consacrées aux plumes, aux auteurs et à la littérature, au cinéma, au théâtre et à la peinture.
Merci beaucoup, Alexis Sadatko, de faire revivre Dino Buzzati au moment où lui-même va mourir. La dernière enquête de Dino Buzzati, ce petit roman, puisque vous aussi, vous jouez beaucoup entre le réel et la fiction, entre la réalité et le sacré, paraît chez De Noël. Avec une
Le 50e anniversaire de sa mort.
Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin.
Merci Sonia, merci.
Alors moi, je voudrais féliciter Martine qui a reconnu la voix de Gérard Klein. Chère Martine, c'est à vous que j'offre la BD d'Étienne Davodeau. Et beaucoup, on a eu beaucoup de réponses et vous avez tous cru qu'il s'agissait d'Yves Mourousi. Voilà.